Avant de passer à la table ronde, prendre le temps de faire un petit état de la recherche. Donc c'est la séquence intitulée « Mieux connaître le travail d'intérêt général ». On va d'abord regarder ce qui se passe en France avant d'aller un peu à l'étranger. Je vais demander à Christian Moina, qui est le directeur du CESDIP, qui m'a promis de ne pas présenter le CESDIP, car la présentation des tutelles prendrait un petit quart d'heure, mais de nous parler de l'étude qu'il mène avec Chantier Passerelle. Voilà.
Merci, bonjour à tous, merci de votre accueil ici. On est toujours intéressé en tant que chercheur d'être confronté aux réalités du terrain. Je mets en marche le chronomètre. On m'a demandé de faire une présentation très rapide. Je dirais ça tombe bien puisque c'est une recherche qui est en cours, qui est loin d'être achevée, qui a été lancée à l'initiative à la fois de chercheurs et avec l'appui de Chantier Passerelle, et une recherche que je mène actuellement avec Memphis Kriegberg qui est là-bas dans la salle, nous sommes très impliqués dans cette recherche qui est tout à fait passionnante. L'objectif, je vais aller très rapidement, c'est de comprendre le fonctionnement concret du travail d'intérêt général, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, d'aller comprendre auprès des acteurs comment tout cela fonctionne, quels sont les problèmes qui se posent à eux, les difficultés, y compris en prenant en compte les difficultés matérielles, on en parlait ce matin, et effectivement, il y a le politique, les décisions publiques, les lois, et il y a leur mise en application concrète, et c'est bien entendu ce dernier point qui nous intéresse en tant que sociologues chercheurs. Comprendre comment ça fonctionne depuis la condamnation jusqu'à l'exécution de la peine. Donc on va voir des magistrats, on va voir des personnels, des services d'insertion et de probation, on va voir des associations, des élus, des services municipaux et aussi des tuteurs. J'insiste là-dessus, ça nous paraît une dimension tout à fait importante, fondamentale, j'y reviendrai. L'idée c'est de comprendre comment toute cette chaîne pénale, le terme a déjà été utilisé ce matin, je le reprendrai volontiers, comment tous ces différents intervenants créent, font que certaines personnes vont aller jusqu'aux tiges et d'autres non. Hein, on va se poser toutes ces questions-là et comprendre aussi pourquoi, à d'autres moments, dans d'autres endroits ou dans les mêmes départements, il y a des blocages, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des gens qui disent « tiens, on pourrait en prendre, mais on ne le fait pas », etc. Donc une grosse partie de notre travail va être d'aller voir ces gens qui ne proposent pas de tige alors qu'ils devraient, qu'ils pourraient, bailleurs sociaux, certaines communes en proposent d'autres noms, pourquoi, et tout ça nous intéresse. Donc vous voyez un chantier assez ambitieux j'ai pas le temps de développer tous les détails. Donc ce que je vais faire, c'est prendre les quelques minutes qui m'ont été accordées pour faire quelques flashs, quelques éclairages, quelques photographies sur un certain nombre de points et apporter certainement à ce stade de l'étude, peut-être à la fin, mais on verra, plus d'interrogations que des réponses définitives. Donc c'est en quelque sorte un teasing que je vous propose là, la suite au prochain épisode, au prochain colloque organisé sur ce sujet. Alors, j'ai 4-5 points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Ça ne veut pas dire que c'est exhaustif. Hein, il y a plein de points sur lesquels je ne vais pas m'approfondir. C'est des choix assez arbitraires. Donc, tout d'abord, le premier point qui nous apparaît tout à fait intéressant, c'est l'importance de la connaissance interpersonnelle entre acteurs, entre des magistrats et des conseillers d'insertion et de probation, entre des conseillers d'insertion et de probation et des associations ou des services municipaux. Autrement dit, le TIGE, c'est une mesure nationale, ça s'appuie sur des textes de loi, etc. Sur le local, on ne peut pas comprendre le TIGE si on ne comprend pas le réseau des relations et surtout si on n'intègre pas le fait qu'il faut que des personnes aient le temps d'aller expliquer à d'autres ce qu'est le TIGE. Alors, ça peut être le travail de conseiller d'insertion et de probation, ça peut être le travail d'autres acteurs, ça peut être un responsable de service politique de la ville dans une mairie qui a besoin d'aller voir les tuteurs dans les services municipaux pour expliquer ce que c'est. Et ça va se faire sur la confiance, sur l'interpersonnel. Je sais bien qu'on est à l'époque des réseaux sociaux, qu'on est à l'époque des connexions et autre chose, qu'on peut trouver plein de choses sur Internet. N'empêche que là, le travail d'intérêt général, ça se fait essentiellement par du face-à-face, hein, même pas au téléphone, c'est des gens qui se voient, qui se convainquent, etc. Ça me paraît important de le noter. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas un cadre des institutions, mais que ça ne suffira pas et ça ne suffira jamais à expliquer ces modes de fonctionnement. Et on voit qu'à l'inverse, là où ça ne se crée pas, souvent, c'est que des gens n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer, puisque parfois on rencontre des gens, on leur dit, on aimerait bien savoir pourquoi vous ne faites pas de tige. Ah tiens, c'est intéressant, on va en parler avec vous. Et les gens nous demandent lors des entretiens, comment on pourrait faire pour contacter une personne pour faire des tiges. Donc Vous voyez que la recherche n'est pas seulement neutre, des fois on suscite aussi des choses malgré nous. Donc ça c'est important. Alors avec le problème qui est lié à cela, c'est le turnover dans certains services. Je ne parlerai pas du turnover dans la magistrature. Hein. On nous annonce des chiffres de un quart des magistrats ou un tiers qui changent par an. Donc, il y a des études en cours là-dessus. Je pourrais vous donner là aussi des chiffres quand ces études-là seront finies. Mais évidemment, c'est difficile quand les responsables de service changent, quand les tuteurs changent. On voit bien que tout est à recommencer sans arrêt. Donc ça, ça peut paraître un résultat peut-être un peu frustre, évident pour ceux qui sont impliqués directement. N'empêche que c'est important comment on fait pour créer du lien qui est un peu durable sur ces questions-là. Deuxième état des lieux, je dirais que, en une formule simpliste, plus on connaît les tigistes, moins on en a peur, parce qu'il est clair que dans le non-recours aux tiges, il y a de manière très marquée chez les gens qui n'en font pas, des peurs, des fantasmes, on appelle comme on veut. En tout cas, oui, on va nous envoyer des délinquants chez nous. Et on a peur, on va se faire voler, etc. Vous parliez d'image. On a une image extrêmement détériorée de personnes qui ont peut-être commis des délits qui n'ont rien à voir avec les vols ou autre chose. Hein. Déjà expliquer aux gens que les tigistes ne sont pas des criminels en série, que ces gens-là vont en prison, qu'on est quand même sur un autre type de population. Donc, il y a besoin d'informations. Et ce qui nous a surpris, c'est que quand on interviewe les tuteurs, évidemment, on pose la question au bout d'un moment sur oui, et quand il y a un problème, quand vous sentez qu'il y en a un qui dérive, finalement, il y en a très très peu des problèmes. Alors, je ne prétends pas avoir une vision exhaustive des choses, mais il s'avère que là, tout le travail qu'on a fait nous montre, dans des endroits quand même où il y a de la délinquance sérieuse, où il y a des problèmes sérieux, on s'aperçoit que les craintes, finalement, elles ne sont pas du tout exprimées par les tuteurs une fois qu'on en a pris un, deux et trois. On sait que ce sont des populations pas toujours simples à gérer, que notamment les jeunes peuvent poser des problèmes parce qu'ils n'ont pas l'habitude des horaires, etc. N'empêche que on ne voit pas de peur, de crainte, j'insiste là-dessus, chez les gens qui font des tiges, chez les tuteurs en particulier. En revanche, crainte, peur, évidemment, chez les gens qui n'en font pas. Mais même si ce n'est pas le seul moteur, il me semble que c'est quelque chose d'intéressant à travailler. C'est un objectif si on veut que le tige se développe. Donc, se pose aussi la question de l'adaptation du travail au tigiste. Là aussi, on pourrait dire c'est une sanction. Il n'y a qu'à prendre un travail d'intérêt général, dire au tigiste c'est comme ça et tu n'as pas le choix, etc. En fait, on voit que les divers interlocuteurs font preuve de beaucoup plus de psychologie et qu'on cherche quand même à donner quelque chose qui soit adapté à la personne avec des tiges pour les personnes qui sont totalement désinsérées et puis d'autres pour des personnes qui sont en situation professionnelle. Donc, il y a quand même une intelligence du territoire qui me semble fondamentale et très importante. Ces tuteurs, j'insiste un peu sur la population des tuteurs parce qu'il me semble qu'on n'en parle peut-être pas assez alors que ce sont quand même des gens très importants. Ce qui nous renvoie au lien, c'est que ces tuteurs, ce qui leur manque finalement, c'est pas forcément une question de rémunération. Ils ont un rapport à l'argent, j'y reviendrai, c'est pas le moteur principal, l'argent. Il n'est pas question d'avoir des primes supplémentaires parce qu'on encadre des tiges ou autre chose. C'est surtout un manque d'information sur ce que c'est qu'un tige, sur les implications judiciaires, sur qu'est-ce qui se passe si le gars ne vient pas le matin au travail, sur pourquoi il est condamné. Et je dirais, on pourrait interpréter ça comme de la curiosité malsaine, se dire, le gars qui est chez moi, je dis le gars parce que ce sont essentiellement des hommes, ce n'est pas du machisme de ma part, pourquoi cette personne est là. C'est comprendre, puisque de toute façon, assez rapidement, à travers les discussions avec le tigiste, ils arrivent à savoir pourquoi il est là, etc. C'est plutôt d'avoir une explication en termes de, je dirais, de participation citoyenne. Et c'est peut-être quelque chose qui peut paraître démodé, je le dis peut-être trop rapidement. Mais il me semble que chez les tuteurs, il y a un véritable intérêt pour la justice, il y a un véritable intérêt pour la participation à l'œuvre de justice. On parle de service national, etc., de citoyenneté. C'est un débat qui est hyper important aujourd'hui, au moins chez les sociologues, j'espère dans le reste de la société. Mais en tout cas, comment fait-on des citoyens? Le fait de participer à des activités proches de la justice, C'est important pour ces tuteurs, ils insistent beaucoup là-dessus, ça nous a totalement surpris parce qu'on ne posait pas forcément des questions là-dessus. Et donc, quand ils nous disent « on a besoin d'une formation, mais ce n'est pas une formation à l'encadrement, puisqu'on a des gens qui, par essence, savent encadrer. Ils sont chefs de service, ils sont responsables d'équipe, ils savent encadrer des publics difficiles, certains de leur personnel sont des publics pas toujours très simples, donc ils savent faire, ils ont une expérience. » En revanche, ils disent « oui, on aimerait mieux savoir ce que c'est qu'un TIJ, on aimerait une certaine reconnaissance de l'institution judiciaire, on aimerait que le SPIP, et on voit comment le SPIP parfois essaie d'organiser des pots ou des choses comme ça pour montrer sa reconnaissance, on aimerait un petit peu de reconnaissance de la part des institutions par rapport à ça. » Il me semble que là aussi, on peut toujours dire « bon, c'est du symbolique, c'est pas important, etc. » Il me semble qu'au contraire, on est dans quelque chose d'important et on voit qu'on parle dans les projets de loi de la remise en cause de la participation citoyenne aux assises, etc., pour des raisons d'économie qu'on peut comprendre par ailleurs. Il me semble que là aussi, on passe à côté de quelque chose qui est la participation des citoyens à l'œuvre de justice et que si la justice, la mise en œuvre de la justice ne reste que quelque chose dédié aux professionnels, ça pose des problèmes. Je ne veux pas développer là-dessus, mais... Donc l'idée aussi de tuteurs qui ne sont pas mus par l'argent, on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour une prime supplémentaire, ça revient aussi, avec aussi un certain nombre d'acteurs, je n'ai pas le temps de développer, mais qui ont évidemment très peur d'un risque de marchandisation, de privatisation du TIJ, de gens qui s'emparent du TIJ, de passage au secteur privé. Je vous donne ces éléments-là de manière très brute, il faudrait développer, je n'ai pas le temps, mais le modèle des prisons américaines privatisées est bien entendu le repoussoir. Peut-être un autre point, alors en prenant un autre regard, le rapport au travail, on a énormément de témoignages, alors on peut interviewer certains tigistes, mais dans notre étude on n'a pas une dimension où on va interroger systématiquement beaucoup de tigistes pour voir leur rapport au travail, il faudra une autre étude là-dessus, quantitative, etc. Mais au moins on a un certain nombre de témoignages à la fois de tigistes et d'encadrants qui montrent que pour certains c'est la découverte d'un monde de travail, que pour certains, ce n'est pas une sanction, ça apparaît comme une chance, ce qui est quand même paradoxal, qui en dit beaucoup sur le fonctionnement de notre société. Je vous renvoie au débat de ce matin, je ne le referai pas. Ça paraît là aussi intéressant de débattre peut-être un peu plus clairement de cette chose-là, puisqu'on a eu des intervenants qui nous ont dit « oui, mais moi, je ne suis pas d'accord pour faire un certificat de travail à un tigiste qui me le demande pour en faire foi devant de futurs employeurs ». Alors on était un peu surpris parce que l'idée est quand même la réinsertion, la réhabilitation, etc. Et il nous dit oui, mais parce qu'on en revient à ce vieux débat sur l'égalité des chances. Est-ce qu'on doit donner plus de chances à quelqu'un qui est passé par la case prison ? Je n'ai pas le temps d'approfondir ce débat-là. Je veux juste vous poser cette question-là à vous, professionnels, parce que c'est forcément quelque chose qui va revenir dans les débats. C'est forcément quelque chose qui revient quand on en parle avec l'opinion publique. Et pour conclure, à peu près dans le temps qui m'est imparti, on a beaucoup parlé de l'opinion publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a vu les gens, notamment ceux qui ne connaissent pas les TIJ, c'est qu'on a une opinion favorable aux TIJ, beaucoup plus que les autres mesures alternatives. Pourquoi ? Alors, je n'ai pas fait de sondage précis, mais parce que c'est aussi quelque part interprété comme étant une résurgence du travail forcé. La valeur travail... Alors voilà, il faut aussi jongler avec ça, peut-être ruser avec ça pour développer le TIJ. Le travail, ça a une meilleure image que la contrainte pénale, que d'autres mesures, que le sursis avec mise à l'épreuve, etc. Parce qu'on va forcer les gens à travailler, donc à s'amender. Quelque part, ça nous renvoie aussi à tout cet imaginaire du travail forcé. Là aussi, on pourrait développer et je n'ai pas le temps. Et donc, pour conclure totalement et définitivement, je vais reprendre certains débats ou peut-être faire la transition avec le débat sur l'agence du TIJ. Je pense que le débat, il faut-il ou ne faut-il pas une agence, il ne faut pas poser le débat comme ça. Parce que si on fait une agence, alors ça fait très peur, le concept d'agence, à beaucoup de gens que nous avons interviewés pour des raisons diverses. Mais on a peur que cette agence, évidemment, capte des moyens. On a peur que cette agence se transforme en nouvelle bureaucratie qui va nous demander d'évaluer, de faire des papiers, etc., de mettre de la lourdeur administrative. Et appartenant à au moins deux ou trois institutions qui sont très fortes là-dessus, ayant étudié longtemps les services d'insertion et de probation, voire un peu la PJJ, on voit bien comment tout ce travail d'accompagnement, ce travail social, etc., peut se retrouver facilement bureaucratisé. Je ne développe pas là-dessus, mais donc il me semble que ce n'est pas forcément un fantasme ou un préjugé, ça peut arriver. Et donc, agence peut-être, mais il faudra définir clairement pourquoi et répondre plutôt aux attentes, aux quelques attentes que j'ai commencé d'évoquer, que de faire une agence pour dire il y a une réponse, il y a une agence. Non, quelle agence, pourquoi faire ? Et il me semble que ça suffit pour l'instant. Et suite au prochain épisode, je vous remercie de votre attention.
Juste. Peut-être juste nous dire quand est-ce que l'étude paraîtra et où est-ce qu'elle sera disponible.
L'étude sera achevée à la fin de l'année civile, si tout se passe bien. Elle sera en ligne sur le site de la mission de recherche droit et justice et sur le site du CESDIP. Peut-être Chantier Passerelle nous fera aussi l'honneur de diffuser. De toute façon, ça ne sera pas difficile à trouver par les moyens actuels de communication. Merci.
Merci Christian.